Le russe pour tous, maintenant.
Bonsoir, vous êtes bien sur RDWA sur le 107.5 FM ou sur rdwa.fr. Russe pour tous 11.
Добрый вечер, дорогие друзья. Ничего себе, 11-я передача на радио Дива. Вы можете слушать, как всегда, 107,5 или на подкасте rdwa.fr.
Notre page littéraire aujourd'hui consacrée à Евгений Замятин.
Итак, Алина нам представил творчество Евгения Замятина. В частности, его рассказы. Рассказы у Замятина всегда очень интересные. И в первую очередь они интересны теми бытовыми зарисовками, которые позволяли нам представить себе людей, которые жили в России до революции.
Donc c'est la fin du cycle L'âme slave. Voilà. Et merci à Valentina et l'équipe d'Andarta pour tout ce mois. C'est une lecture qui a déjà été faite samedi dernier. Et donc ce sont des textes d'un auteur qui s'appelle Eugène Zamyatin, qui est un auteur russe de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui entre 1916 et 1920 a publié régulièrement dans des journaux des contes, et donc c'est quelques-uns de ces contes qui sont parus dans un recueil qui s'appelle Russie, on en reparlera tout à l'heure, que j'ai choisi de vous présenter. Le premier, les deux premiers de ces contes datent de 1920. Le premier s'appelle Les Ivanes. Il était une fois un village du nom d'Ivanika. Tous les moujiks s'y nommaient Ivan. Seul leur surnom différait. Ivan l'auto-mordu, dans son sommeil, il s'était mâchouillé l'oreille. Ivan l'effréné, Ivan le farfouilleur de nez, Ivan oreille salée, Ivan l'enragé, Ivan maître cracheur. Il y en avait tant qu'on ne pourrait tous les dénombrer, mais le maître cracheur se posait comme leur chef à tous. Il y a des gens qui sèment et qui binent. Les Ivanes, eux, la panse tournée vers le haut, crachaient au ciel. À qui cracherait le plus haut ? Hé, vous, les Ivanes, vous feriez mieux de semer le blé ? Mais pour toute réponse, les Ivanes entre leurs dents. À ce qu'on dit sur les terres nouvelles, le blé est vraiment de première sorte. Des graines de la taille d'un cornichon, ça c'est du blé. Et de rechef, à qui cracherait le plus haut. Il fait niantait de la sorte et voici que la chance leur advint, on ne sait d'où. Bruit de sabots sur la route, poussière qui vole, c'est un cavalier qui traverse Ivanika en clamant « Que les Seus qui veulent aller aux terres nouvelles y aillent !» Les Ivanes se firent signe en leur front et, accrochés à la queue du cheval, de toute leur force, les voici lancés si vite que le paysage défile en clignotant une église, un champ, une église, un champ, une église. Le cavalier stoppa. Pas une habitation alentour. À 100 verstes à la ronde, il n'y a qu'un sol pelé avec, dressé au seul mi-temps, un buisson d'ortie. Et quel buisson ! Un tronc tel qu'on l'entoure à peine des bras. Si on lève la tête pour voir le fait, la casquette en tombe du crâne, une piqûre, et c'est une cloque de la taille d'un demi-rouble. Les Ivanes émiettèrent une motte de terre entre les doigts, noire comme cirage, grasse comme beurre. Hardi les gars, baluchons à terre, c'est bien ça, de la première sorte. Ils s'assirent en rond, mâchonnèrent une niche avec du sel, bon, boire un petit coup et au boulot. Coup d'œil à gauche, coup d'œil à droite, pas de trace d'eau. Rien à faire, il faut creuser un puits. Ah ben, voilà qui arrive pour le puits justement. On s'y met à creuser ce puits. La terre poussière est légère, ça voltige partout. Maître cracheur s'arrête de temps en temps, plisse les yeux. Ouh là là, mes frères, qu'est-ce qu'elle doit être douce et savoureuse, l'eau de par ici, pas comme chez nous. Juste à ce moment, le fer d'une pelle sur une pierre. Énorme la pierre. On la retourna, une source jaillit. Les Ivans en puisèrent, avec leurs louches en bois, goûtèrent, froide, limpide. Ce n'était qu'une eau ordinaire. Maître Cracheur fit entre ses dents et dit « Comme ça, il y en a tant qu'on veut à Ivanica. Il faut creuser plus profond. L'eau ici doit être de première catégorie, pas comme ça. » Ils creusèrent jusqu'à la nuit noire sans plus de succès. Ils dormirent d'un sommeil agité sous l'ortie et dès le matin, ils reprirent leur creusement. Le puits était profond désormais, vertigineux. On rencontrait des vers répugnants, nus, roses, à grands museaux. On creusait un peu, on s'arrêtait, on réfléchissait. Mais Maître Cracheur de tout là-haut, à peine audible, « Plus bas, frère! Creusez encore un petit coup, on est près du but !» Et ils parvinrent à une couche dure, si dure que la pelle ne l'entamait pas. Et l'eau gênait. Hors de l'eau, il y en avait pas mal, de cette même eau pareille à celle d'Ivanica. On prit une baramine, on frappa un coup. En réponse, vint un bruit comme de l'intérieur d'un tonneau. Y avait-il une caverne ? On frappa un coup plus fort. Tout se mit à gronder et à s'effondrer. Tout tomba, l'eau, la pierraille, les mottes et tous les outils. Les yeux empoussiérés, assourdis, les Ivans eurent toutes les peines du monde à se maintenir sur une saillie. Ils se frottèrent les yeux, regardèrent sous leurs pieds. Que la croix puissante nous protège, il y avait un trou, et dans ce trou, le ciel bleu. Ils regardèrent vers le haut, très loin, là-bas, brillait le bleu du ciel. Par la Sainte Croix, ils avaient creusé la terre de part en part. Pris de peur, ils entreprirent de remonter. L'autre mordu sur les épaules de l'effréné, celui-ci sur les épaules de Farfouilleur de nez, ce dernier sur les épaules d'Oreille Salée, et lui sur celles de l'enragé, et c'est ainsi qu'ils s'en sortirent. Ils s'en sortirent, et pour commencer, froissèrent quelques côtes au Maître Cracheur. Puis ils rassemblèrent leurs affaires et regagnèrent leur pénate à Ivanica. Comment rester sans eau et sans outils ? Seule consolation, chacun apportait une pincée de terre nouvelle. Ils la montrèrent aux voisins, et ceux-ci n'y crurent pas. À d'autres, baratineurs, s'il y avait de la terre comme ça quelque part, tu parles que vous seriez revenus. Quant à avoir creusé la terre de part en part, inutile de songer à en parler, on les raillerait à mort. C'est ainsi que les Ivans acquirent une renommée de fanfaron. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a cru qu'ils s'étaient rendus aux nouvelles terres, et pourtant, ils y ont été. Le texte suivant, qui date de la même année, s'appelle « La croquoire ». Une secousse. Les étoiles tombèrent comme poires mûres. La voûte céleste se vida, devint comme un champ de chaume en automne. Seul le vent ululait sur cette plaine jaune, inamicale, et tout là-bas, au bord, rampaient sur la route lointaine, lentement, deux insectes bons hommes, tout comme rampaient dans le ciel désert deux astres noirs, la lune et le soleil, noir pour que la résurrection en parût plus éclatante. C'est alors que la croquoire se mit à arpenter la terre. Des pâturons d'ours, une démarche dandinante, d'une patte sur l'autre, un crâne de sanglier, blanc, chauve, orbite close, avec seulement à l'arrière de longues mèches jusqu'aux épaules, comme celle des pèlerins, et sur la panse, un visage, comme d'un humain, les yeux fermés, avec à l'endroit précis du nombril, une gueule béante. Dans un champ, grand-père Kotchetik labourait pour la récolte d'hiver. Pantalon de coutil, chemise de chambre, cheveux noués par une ficelle pour les empêcher de tomber dans les yeux. Le grand-père était saisi de vertige en regardant le ciel, mais qu'y faire ? Il fallait de toute façon labourer. La Croquoire buta sur lui par derrière. Les yeux de la Croquoire, c'était pour faire semblant. Elle ne pouvait les dessiller. Elle fonçait sur tout ce qui se trouvait devant. « Qui es-tu, toi ? » fit-elle au grand-père. Là où les gens ont leur nombril était la gueule de la Croquoire. Elle parlait de la panse. « Que fais-tu là sur mon chemin ?» Ce disant, elle ouvrit son autre gueule, la sanglière. Voilà que seul dépasse les choses du grand-père. La voix d'Udi, à peine audible, se fait entendre comme venant de sous terre.
« Et le blé alors ? Et qui fera le pain ?»
Et la Croquoire avec sa panse. « M'en fous !» Et hop, adieu grand-père. Sur un chemin forestier, la bachelette Olenka cueillait des fleurs. Les toutes premières campanules. Ses pieds nus blanchoyaient parmi les clochettes et elle-même était comme une clochette dorée. Son chant mélodieux s'élevait, qui parlait de sa belle-mère, de son fougueux mari, à vous en saisir l'âme. La Croquoire buta contre Olenka.
« Que fais-tu sur mon chemin ?»
Et voici les talons nus et blancs qui battent l'air. Olenka n'eut que le temps de s'écrier des tréfonds.
« Et ma chanson ?»«
M'en fous !» pensonna la Croquoire avant d'engloutir les pieds qui dépassaient. Partout où elle passait, le vide se faisait. Il ne restait derrière elle que du fumier en tas. Toute la race humaine aurait été annihilée s'il ne s'était trouvé un homme tout ce qu'il y a d'ordinaire, marchand forain de métier, portant un nom banal, Petrov ou Sidorov, mais doué de jugeote et ingénieux. Bref, un gars de Yaroslavl. Il nota que la Croquoire ne se retournait jamais, fonçant en droite ligne. Il lui était impossible de se tourner. Un sourire rusé, typiquement yaroslavlien, aux lèvres, le marchand forain suivit doucettement la Croquoire. Ce n'était guère réjouissant, dame, s'enfoncer jusqu'aux genoux dans ces fameux tas, mais le coup était sûr, en revanche. À la suite du marchand forain, d'autres eurent la même idée, et bientôt on vit derrière la Croquoire une queue leu-leu, pareille à une procession d'église. Il n'y eut que quelques imbéciles, de fieffés crétins, qui n'eurent pas la présence d'esprit de se cacher sur les arrières croquoiresques. Ces fieffés crétins, la Croquoire les extermina en un tourne-main. Puis elle tomba d'inanition, évidemment. Quant au peuple d'Yaroslavl, il mena la grande vie en louant le Seigneur. Le fumier avait rendu la terre grasse et fertile. La récolte serait bonne. 1920. Les textes qu'on va lire après sont plus récents et l'auteur est resté jusqu'en 1931 en Russie. Voilà, donc là, il était encore en Russie. Donc le troisième texte date de 1916. Il s'appelle Piotr Petrovitch. Il n'y avait personne au monde de plus intelligent que Piotr Petrovitch. Tout le temps à réfléchir. Les caroncules au vent, tout le temps il réfléchissait. Or ces caroncules étaient violines, car il était d'origine dindonne, et son épouse était la dinde Anouchka. Toutes tachetées. Ils étaient mariés depuis un peu plus d'un mois. Dès que les premières pousses, encore aveugles, des herbes eurent germé, Anouchka se prit à couver. Elle cessa de se peigner, devint ébouriffée, elle gloussait, crételait, tandis que Piotr Petrovitch, debout sur une patte, réfléchissait. Il pensait. Voici les œufs, piquetés de taches rousses. Si ce n'est aujourd'hui, alors demain, vont en sortir des dindonneaux, jaunes et duveteux comme des pissenlits. Que c'est intéressant. Cependant, la Nouchka tachetée accomplissait son travail de bonne femme. Elle restait assise sur les œufs, dans le panier. Une semaine s'écoula, une autre. Anouchka était épuisée. Sans boire, ni manger, ni bouger. Piotr Petrovitch perdit patience. Alors, où en es-tu ? Anouchka rougit. Ma foi, ça suit son cours, mais il leur manque encore un peu de duvet. Il leur faudrait encore une semaine. Eh bien, une semaine ! Je n'aurai pas la patience. Vous alors, les femelles ? Personne au monde n'est plus intelligent que Piotr Petrovitch. Tout le temps, il réfléchit. Tout le temps, il est debout sur une patte à réfléchir. Et il prit sa décision. Les bonnes femmes, on sait ce que c'est. Des landines, des landors, à quoi bon les écouter ? Il faut agir à notre manière de coq dindon. Il vint voir Anouchka, un œil à demi fermé, l'air rusé, malheur. Si tu allais donc boire un coup, Anouchka, l'eau est fraîche dans le baquet, moi, je vais surveiller les œufs pendant ce temps. Anouchka partit boire. Piotr Petrovitch sauta dans le panier. Poc, un œuf. Toc, un autre. Crac, un troisième. Ils sont tout chauds, les dindonneaux. Ils respirent. Parole, quelle joie pour lui. Il se mit à les extirper de la coquille. Il les sortit. Mais ils étaient horribles, nus, faibles. Et là où se trouvait leur arrière-train, les veines gorgées de sang étaient soudées au corion ovulaire. Il entreprit de les arracher. Les boyaux se dévidèrent. Il voulut les remettre dans leur coquille, impossible de les y fourrer. Piotr Petrovitch fit un saut de côté. Ses caroncules pâlirent. Bec bée, il contemplait les coquilles cassées avec les petites têtes pendouillant par-dessus le bord au bout de leurs interminables coups fins. Les dindonneaux ne respiraient plus qu'à peine. Piotr Petrovitch battit les ailes et se hâta de franchir la palissade avant qu'Anouchka le voie. Parce que les femelles, hein, on sait comment elles sont. Rien de bon à en attendre. 1916, donc, et il faut croire que pendant toute cette période, dans le monde, le monde a continué d'être gouverné par des coqs dindons, puisque des piou-piou qui se sont fait étriper, qui se faisaient déjà étriper dans les tranchées à la date de l'écriture de ce texte, ça a continué encore pendant 2 ans. Et on arrive là, on a découvert 3 textes.
Il y a une question. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Piotr, il s'appelle Petrovitch ?
Non, je ne peux pas.
Moi, je peux.
Ah, alors d'accord.
parce qu'en Russie, il n'y a pas seulement prénom, il y a aussi patronyme. Uh-huh. Donc, par exemple, si je suis en Russie, je travaille avec adultes, donc tout le monde dit Valentina Vassilievna. Parce que mon papa Vassili, tu vois.
Donc c'est le fils de Petrov.
Fils de Piotr.
De Piotr.
Voilà. Par exemple, ton papa, c'est quel prénom, ton papa?
Ferenc. Comment c'est en Russie? François. Je ne sais pas comment on dit François.
François. Voilà. Donc tu, Aline Françoisovitch.
Et donc c'est le fils de Piotr.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, Pierre, fils de Pierre.
Oui. Et donc ici, si Zamiatin écrit comme ça, s'il ne donne pas seulement nom, prénom, mais aussi patronyme, ouais. Donc c'est avec beaucoup de respect, mais avec beaucoup d'ironie.
C'est un monsieur.
Oui.
C'est un monsieur, ce coq d'Inde.
Voilà, tu comprends. C'est pas seulement Piotr, c'est Piotr Petrovitch. Voilà. C'est pour comprendre un petit peu mieux la littérature russe. Parce que chez nous, patronyme, c'est pour ça. Voilà.
Alors là, dans le comment là, moi je voulais vous proposer une chanson qui a été collectée en 1918 au sortir de la guerre dans l'équivalent de ce qui est Verdun en France, mais en Italie. C'est une chanson italienne qui était chantée par les quelques jeunes gens qui revenaient de la guerre et pour dire que dans cet endroit de l'Italie, il y a des bataillons entiers qui sont allés se faire massacrer, et il y a des bataillons qui ont été complètement rayés de... Voilà, où il n'y avait plus personne, et personne n'est revenu.
Du coup, c'est une chanson sur la guerre des tranchées. On peut imaginer que c'est des poilus qui la chantent, mais c'est des poilus italiens.
Non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga in eternità per conquistare un palmo di terra. Quanti fratelli son morti di già? Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara. Per conquistare la trincea Savoia si va. Trincia di raggi, maledizione. Quanti compagni son morti lassù, finirà dunque sta flagellazione. Di questa guerra non si ne parli più. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano, Gorizia Pierre. Da Monte Nero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doberdo, un reggimento più volte distrutto, al fin indietro nessuno tornò. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea Savoia si va. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea Savoia si va.
C'est le feu et la mitraille pour conquérir la prochaine tranchée. Il faut y aller et ne pas forcément revenir.
Merci. De dire ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est bien. Mais si on peut dire pourquoi, c'est bien aussi, non ?
Et je trouve que Zamiatine, lui, il disait pourquoi, mais sous forme de conte. C'est-à-dire qu'un peu la bêtise de ses coqs. Voilà, du coup, voilà, mais il y a le texte, du coup, le premier texte de la deuxième partie revient aussi sur cette période de. Traite aussi de la guerre. Et s'appelle Les Chérubins, donc un texte de 1917. Chacun sait comment ils sont faits, les chérubins. Une petite tête. Des petites ailes, et voilà tout leur être, exactement comme ils sont représentés dans toutes les églises. Une grand-mère vit en songe des chérubins voler dans sa chambre. Ils volent, ils battent l'air de leurs ailettes à la manière des hirondelles et palpitent sous le plafond. Et puis, de plus en plus bas, les voici qui accrochent les rideaux, qui se cognent à la lampe, qui remonte vers le plafond, la grand-mère leur récita la prière des chérubins. Elle se rappela toutes les prières qu'elle avait apprises, et eux, ils voltaient toujours. Oh, comme elle eut pitié d'eux. Elle n'en pouvait plus. Et elle dit à celle qui était la plus proche, « Mon joli, assieds-toi une minute, prends un peu de repos, tu dois être fatigué à voler de la sorte. » Mais le chérubin plaintivement... « Je voudrais bien, mère grand, mais je n'ai pas de quoi. » Et c'est la vérité. Une petite tête et des petites ailes, c'est tout ce qui les constitue. On ne peut rien y faire. Voilà le texte, les chérubins, tel qu'il a été... parce qu'il n'est pas fini. Tel qu'il a été publié en 1929 à Moscou, dans le quatrième tome des œuvres complètes de Zamiatine. Mais le 14 décembre 1917, quand il a été publié, il était encore plus complet, puisqu'il avait une suite. « Tel est leur destin de chérubin, impossible de s'asseoir. Dans un rêve inepte, des chérubins palpitent au-dessus de la vieille dame Russie. Leurs ailettes sont fatiguées. Ils jettent un coup d'œil en bas, cherchant un coin où se poser. Mais en bas, c'est effrayant. Des baïonnettes pointent partout. » Les chérubins reprennent leur vol de toute leur force. Abrogez les lois, en général. Les voici, palpitant sous le plafond même. On ne peut plus aller plus loin, mais il le faut. C'est leur devoir de chérubin. Allez-y, palpitez encore plus haut. Coupez les têtes à la guillotine. Et si tu t'asseyais pour te reposer? Je voudrais bien, ma brave dame, mais c'est impossible. Et le chérubin de poursuivre son vol palpitant.
soumettez à l'estrapade, fouettez aux pnoutes, arrachez les narines. On a pitié des chérubins, car tel est leur malheureux destin. Palpiter dans un rêve inepte, sans trêve ni repos, se heurter la tête au plafond, jusqu'à perdre toute force dans les ailettes et se trouver précipité, tête la première, sur les baïonnettes en bas. Et maintenant, je vais vous lire encore trois contes de Zamyatin, donc toujours, qui s'enchaînent, même s'il y en a d'autres qui sont des contes où apparaît un personnage qui s'appelle Theta. Donc là, et parmi les contes qui sont dans le recueil Russie, j'ai choisi ces trois-là. Il y en a deux autres. Donc on va commencer par le premier conte de Theta. Theta apparut par génération spontanée dans le sous-sol de la direction de police. On y avait entassé de vieux dossiers classés. Or, voici que l'officier de police subalterne Ulian Petrovitch entendit gratter et toquer. Il ouvrit. Une poussière, à ne plus cesser d'éternuer, et sortant tout gris de cette poussière, Theta. De sexe masculin par préférence, un seau de cire rouge avec un numéro se balançant au bout d'une ficelle, petit tel un enfant, mais d'apparence respectable, chauve et bedonnant, un vrai conseiller de cour, quoi. Quant au visage, ce n'était pas véritablement un visage. Bref, c'était Theta. Theta plut beaucoup à l'officier de police subalterne Ulian Petrovitch. Il l'adopta et le logea sur place dans un petit coin du bureau où Theta se développa. Il exhuma du sous-sol de vieux rapports, des communications numérotées qu'il accrocha encadrées dans son coin. Il alluma une bougie et pria solennellement. Seul le seau de cire se balançait. Un jour, Ulian Petrovitch vint le voir en tant que percutatif, et que voit-il ? Theta en train de sucer un encrier. Hé, Theta, charognard, que fais-tu là ?
Je bois l'encre, dit l'autre. Moi aussi, j'ai besoin de boire.
« Bon, d'accord, bois. Après tout, c'est aux frais de l'État. »
Et Theta se nourrit désormais d'encre. On en arriva donc à ceci. C'est même drôle à dire. Il trempait sa plume dans sa bouche et écrivait. Une encre des plus substantielles lui coulait du palais en tout point semblable à celle qu'on trouvait dans l'administration policière. Et Theta rédigeait rapports, comptes rendus et prescriptions diverses qu'il accrochait dans son coin.
« Eh bien, Theta, lui dit l'officier, son putatif de père, ma parole, tu seras gouverneur. »
Et c'est ce qui advint. Conformément à la prédiction d'Ulian Petrovitch, Theta devint gouverneur. Or, l'année était difficile. Le choléra et la famine sévissaient. Voyageant en courrier, Theta arriva au district. Il réunit les habitants et « Vas-y que je te les tense !»«
Qu'est-ce que c'est que tout ça ? La famine ? Le choléra ? Ah, je vais vous... » Où aviez-vous les yeux ? Que faisiez-vous ?
Les habitants se grattèrent l'occiput.
Que sommes-nous, nous autres ? Rien ? Les docteurs, eux, ils ont soignoté le choléra. Quant au pain, il a fallu puiser dans le blé de réserve. Je vous en ficherai, moi, des docteurs ! Je vous en ficherai de la réserve !
Il trempa sa plume et prescription numéro 666 de ce jour, ayant pris la direction des opérations, la famine dans le district est par moi rigoureusement interdite. Par le même, il est ordonné aux habitants d'être sans délai rassasiés. Theta. Prescription numéro 667. de ce jour est signifié par moi la fin sans sursoir du choléra. Au vu de ce qui a été ci-dessus mentionné, par là même sont relevés de leurs fonctions les ceux qui se donnaient le titre de docteur. Quant aux ceux qui non réglementairement se sont déclarés malades du choléra, ils sont passibles des châtiments corporels prévus par la loi Theta. On lut les ordonnances dans les églises, on les colla sur toutes les barrières, les habitants firent dire une messe de reconnaissance et le jour même érigèrent un monument à Theta sur la place du marché. Theta déambulait, solennel, chauve, bedonnant, secouant le fameux seau et reniflant de temps en temps, tel un dindon qui circule l'air grave et bat des ailes dans la poussière. Un jour passa, puis un autre. Le troisième jour, que vit-on ? Un coléreux se présenta au bureau de Theta. Il se planta là et grimaça et se tordit. Le peuple ne sait jamais où est son profit. Theta ordonna de lui infliger la punition légale. Lors, le coléreux sortit et, anti-gouvernementalement, décéda. Et alors, vas-y. Vas-y que je te meurs, et de choléra, et de faim. Et les sergents de ville débordés ne purent plus arrêter les contrevenants. Les habitants se grattèrent la tête et d'un commun accord décidèrent faire revenir les docteurs, envoyer chercher le blé de réserve. Quant à Theta, il fut extrait de son bureau et on entreprit de lui apprendre à vivre. À la moujique, le peuple est ignorant, obscurantiste. L'on raconte que Theta finit tout aussi peu naturellement qu'il avait commencé. Il ne cria point, ne protesta point, mais il diminua, devint de plus en plus petit, fondit comme une baudruche américaine. Il n'en resta qu'une tache d'encre, et ce fameux sceau avec son numéro. À ce que virent les habitants, c'était la marque de l'Antéchrist. Ils l'enveloppèrent dans un chiffon pour ne point y toucher, et ils l'enterrèrent près du mur du cimetière. On croit que c'en est fini avec Theta. En tout cas, voilà comment il meurt en 1917, à la date où est paru ce conte dans un journal... dans un journal de cette Russie de 1917. Mais la même année, en 1917, il est toujours là, dans quatre histoires qui sont dans ce recueil Russie, qui est ce livre que j'ai aussi photocopié, de couverture en plus grand pour que vous la voyez, mais qui est là, qui est publié par Circé Éditeur, qui est un éditeur de Strasbourg, et qui est traduit du russe par André Cabaret. Et c'est un livre qui a été édité en 1990, mais il est toujours disponible à deux prix d'ailleurs, à la librairie. Je suis passé demander à la librairie Mosaïque s'il était toujours disponible, et c'est le cas. Cet exemplaire, je l'ai trouvé, il est connu à Die, puisqu'il a été pendant plusieurs années dans les rayonnages de la médiathèque, et la médiathèque déstocke tous les ans une partie sort de son inventaire, une partie des livres. Et ils sont distribués gratuitement pendant la fête du vélo. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce livre de Zamyatin. Zamyatin, je connais le nom en tant qu'amateur de science-fiction, puisqu'il est connu pour avoir écrit en 1920 un roman qui a été traduit dès 1924 en anglais, et puis plus tard en français, mais assez vite dans plusieurs langues, qui a été traduit en français d'abord sous le titre « Nous autres » et qui est retraduit récemment et publié chez Actes Sud sous le titre « Nous ». Donc il doit s'appeler « Nous » en russe, je pense. Et donc avec une nouvelle traduction qui correspond mieux au style voilà, des fois on fait des nouvelles traductions. La précédente était historiquement datée, elle datait de la fin des années 20, je crois.
Il y a une remarque, si tu veux. Oui. Les contes, les amis, tout ce que tu racontes. Ça, c'est une situation en Russie avant la révolution. Donc ça, c'est avant la révolution et dans les périodes avant la Première Guerre mondiale. Ah. Donc c'est très, très, très remarquable qu'est-ce qui se passe dans la campagne, tu vois. Comment ça fonctionne, parce que si, ok, c'est petit exemple, qu'est-ce que tu donnes, mais si nous pouvons lire plus Evgeny Zamyatin pour comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi la révolution est arrivée à Russie, qu'est-ce qui se passe, comment c'est changé dans la tête, comment les peuples dans la Russie, plutôt les paysans, comment ils vivent. Pourquoi? Parce que la révolution en Russie, ça commence avec employés, ça commence dans la grande ville. Et les paysans, ils arrivent après, seulement après. Et donc, voilà, ça c'est intéressant. Cette image à Russie avant la révolution. Parce que je sais qu'est-ce qui se passe à Russie, mais quand tu lis Zamyatin, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu vois? Tu sens qu'il y a quelque chose qui explose bientôt.
Ouais. Et c'est ça qu'il y a dans ces textes de 1916-1917, c'est ça une critique qui est vive, qui est courte, vive, des sortes de petits pamphlets sous cette forme-là. Et oui, c'est vrai. Et dans ce recueil, du coup, il y a aussi d'autres textes qui, avec un côté rural très fort, et ça se passe vraiment dans les campagnes. Là, c'est vrai que voilà, les textes sont dans un contexte rural, mais il y a de nombreux textes de ce recueil, autres que les contes, même qui sont dans un contexte rural. Il y a aussi deux récits de miracles, des miracles complètement impossibles. Enfin, c'est un peu une charge contre l'Église aussi, ces récits de miracles. Et puis, il y a aussi un texte qu'il a écrit. Zamyatin, il était aussi ingénieur. Il fabriquait des brise-glaces, ingénieur naval, et donc il y a aussi dans ce recueil un texte sur comment il, enfin voilà, il parle des brise-glaces. Et bien toujours critique, donc on va passer au dernier conte de Theta, puis après il y en aura encore un autre, mais on n'en finit pas avec Theta. Donc un texte qui est aussi paru en 1917 et qui est appelé comme ça dans ce recueil « Dernier conte de Theta ». Or, il y avait aussi en ville un très sage apothicaire. Il avait fabriqué un homme, pas un comme vous et moi, pauvres pêcheurs, mais un dans un bocal de verre. Que ne savait-il pas ? Theta fit mander l'apothicaire. « Sois aimable et dis-moi pourquoi est-ce que mes citoyens errent-ils, tout chagrin, durant les heures non ouvrables ?» Le très sage apothicaire jeta un coup d'œil par la fenêtre. Certaines maisons étaient surmontées d'un coq, d'autres d'une girouette. Certains citoyens étaient en pantalon, d'autres en jupe. « C'est fort simple, » dit-il à Theta. « Est-ce de l'ordre, ça ?» Il faut que tous soient pareils, d'une manière générale. Bon. Tout le monde en peloton, et hop, on sort de la ville. Et dans la ville déserte, on envoie le feu des quatre coins. Tout fut consumé. Il n'en resta qu'un terrain noir, pelé, avec le monument à Theta au mi-temps. Toute la nuit, les scissières et les marteaux martelèrent. Au matin, c'était prêt. Un baraquement, comme pour une quarantaine, long de 7 verstes, 3 quarts, flanqué de boxes numérotées. Ça va aller.
Il y avait une mouche. Une mouche.
Non. Non. C'est
à son décœur. Attention, c'est un aboiement sombre. Non.
Un grand bâtiment, et pour chaque habitant, une plaque de cuivre avec un uniforme tout neuf de toile grise.
et tous de se ranger dans le corridor, chacun devant son box, les plaques de ceinture brillant comme oiseaux de feu. Tous pareils comme des sous-neufs. C'était si beau que Theta, malgré qu'il en eût, sentit un picotement dans le nez, et il ne put rien dire. Il battit des mains et rentra dans son box, le numéro 1. Merci mon Dieu. Maintenant, il pouvait mourir. L'aube ne pointait pas encore, et la cloche n'avait pas encore sonné, on se levait à la cloche, que quelqu'un frappait à la porte du numéro 1. « Des députés viennent vous voir, votre grâce, pour une affaire urgente. » Theta sortit. Quatre délégués en uniforme, respectables citoyens, chauves, âgés, salutations. « Vous avez été élus par qui ?» Tous les quatre de brailler en cœur. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible ça, y a pas d'ordre, c'est de la part des chauves qu'on vient !» L'apothicaire, il se balade frisé, et il y en a coiffé à la polonaise. Et nous, on est chauves. Non, ça ne va pas du tout. Theta réfléchit. Les rendre tous frisés? Irréalisable. Rien à faire. Il faut tous les aligner sur les chauves. Et il fit signe aux sarrasins, ils arrivèrent en masse de partout, et vas-y que je te rase à nu les individus, mâles comme les femelles, tous lisses comme le genou. L'apothicaire, très sage, devint bizarre. On eût dit un chat après l'averse. On n'avait pas encore fini de tous les raser que déjà, on réclamait Theta de nouveau. Encore des députés, Theta sorti, l'air sombre. Qui avait-il encore? Les délégués. Fit l'un dans son poing. Fit un autre, la goutte au nez. Qui? Lâcha Theta.
Ben nous. « Votre grâce, on vient de la part des crétins. Ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde soit égaux. »
Plus sombre qu'une nuée, Theta rentra chez lui, fit mander l'apothicaire. « T'as entendu ?»«
Oui, »
fit l'autre d'une toute petite voix, la tête dans un fichu d'indienne, par manque d'habitude. Il avait pris froid, tondu qu'il était.
« Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»«
Ben quoi? Faut continuer? On ne peut plus reculer ?»
Juste avant la prière du soir, fut lu aux citoyens cette oukase. « Dès le lendemain, que tous soient des crétins fiefés équivalemment. » Les habitants en restèrent bouche bée. Mais que faire? Peut-on contrevenir aux ordres des supérieurs? On se hâta donc de lire pour la dernière fois les livres intelligents. On lut tard dans la nuit, jusqu'à la dernière sonnerie. À la cloche, on se coucha. Et le matin, on se leva, tous fiefés. On se réjouit, un malheur, on se pousse du coude. On n'entend plus que ça dans les conversations. Les affranchis en sarrau vont apporter des auges pleines de gruaux, du gruau d'orge. Theta fit un tour dans le corridor, trois verstes, trois quarts, et il les vit tout joyeux. Ouf ! Maintenant, c'est bon. Il embrassa l'apothicaire, très sage, dans un coin. « Mon frère, merci pour tes conseils. Jamais je n'oublierai. » Et l'apothicaire à Theta. En définitive, voici la situation. Il n'en reste plus qu'un qui doit penser pour tout le monde. À peine Theta se fut-il enfermé chez lui pour réfléchir, qu'on frappa à nouveau. On défonça carrément sa porte, on se bouscule et on braille à tort et à travers.
Et mon gars, tu ne nous berneras point? On a beau être défiéfé, c'est pas, on pige quand même. Crétiniste toi aussi, camarade, sinon, hein, ça veut dire quoi, hein? Non, camarade.
Theta se coucha sur son petit lit et se mit à pleurer. Mais il n'y avait rien à faire. Bon, Dieu soit avec vous, d'accord, laissez-moi jusqu'à demain. Toute la journée, Teta rôda parmi les fiéfés et il se crétinisait petit à petit. Au petit matin, il était prêt. Il errait en faisant et ils vécurent heureux. Personne au monde n'est plus heureux que ces fiéfés-là.
C'est ubuesque, ce terme, c'est un mot qui m'est venu. Cette crétinisation de masse, que ce soit l'école obligatoire qui apparaît à peu près à la même époque, enfin qui était apparue à la fin du 19e siècle et qui a préparé à ce grand massacre mondial, puis l'école qui est toujours par laquelle nous continuons d'être desservelés. Le financement continu des machines de guerre qui nous saignent et qui continue encore aujourd'hui, bon, on pourra en parler tout à l'heure. Et je voulais signaler l'émission de radio Russe pour tous et toutes, puisque dans une de ces émissions, il m'a été possible de présenter cette lecture. Et elle est toujours en ligne hein, sur rdwa.fr, au moment de copinage radiophonique. Et dans cette émission, je vous y propose justement un passage par Alfred Jarry, comme écho aussi international, ou en tout cas français, à l'ambiance pleine de possibles que je trouve chez Zamiatin, surtout de ses quatre derniers textes et de celui qui va suivre aussi. Moi j'ai l'impression que les deux premiers textes qui datent de 1920, il y a plus, je ressens que c'est plus désabusé. Voilà. Que de l'eau est passée sous les ponts et la révolution est déjà en route. Mais par contre, dans ces quatre derniers textes qui sont antérieurs, on a l'impression qu'au début de ce XXe siècle, comme aujourd'hui, on peut dessiner d'en finir avec les atrocités, avec toutes les courses aux armements, avec toutes les chefferies. Et de Jarry, dans cette émission de radio, je vous invite à découvrir quelques pages du journal d'un déserteur, alors qui date de 1897, et j'étais parti de la rengaine, qui est elle aussi rurale, et qui est dans ce monde. Cette rengaine, donc rurale, et d'Alfred Jarry, était détruit, détruisons l'ennemi, des cochons nos flèches. C'est pour sauver la patrie. Dans son roman Des jours ennemis, Alfred Jarry présente aussi une vision de l'adelphité qui est une aventure de la fraternité. Mais bon, en tout cas, cet aspect-là, tourner ses va-t-en-guerre à la farce, et puis nos petites lâchetés aussi devant une autorité en principe parasite et dévastatrice. Ben voilà, moi je trouve qu'il nous recharge en énergie, et en énergie critique et créatrice, et puis aussi en intelligence. Et pour revenir à Teta, justement, il a paru une première fois, avant que de naître, et puis bon, d'où il est né, nous l'avons vu, dans un conte paru en novembre 1917, dans le numéro 1 du journal Novaya Prostaya Gazeta. C'est le nouveau simple journal, sous le titre Les Bachibouzouks. Envahissant le café d'Arta, les Bachibouzouks ajoutent un papier sous notre nez.
Sur ordre de son Altesse le Tsar Teta, interdiction de critiquer l'autorité. Sous peine de fermer le café théâtre d'Arta. C'est clair?
Ah oui, ok. Ben, si vous nous aviez averti plus tôt. Moi, j'aurais pu choisir un autre thème de discussion que critiquer l'autorité. En
fait. Pas de discussion. Teta a pris sa décision. Il faut obéir.
Peut-être qu'il y a des protestations qui s'élèvent dans la salle, quand même.
Et si nous lui crachons dessus, à Teta? Et si nous faisons la discussion, quand même?
Nous ne l'admettrons pas.
Une autre protestation s'élève.
Vous pointerez le canon?
Affirmatif!
Bon. Il n'y a rien à faire. À quoi bon se jeter dans la gueule du loup, hein? La discussion est annulée, ok. On va tout de suite passer au bar ou à table. Merci, Sarasvati Bouzouk. Merci au Café-Théâtre Andarta d'avoir pris le risque de la censure. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Et russe pour tous et toutes, les lundis à 12h10 ou 12h15 sur le 107.5 FM sur RDWA.
Bravo.
Merci.
Bravo.
Merci.
Bravo.
Notre page agenda. Au mois de juillet, au Café Théâtre Andarta, deux expositions. Mathias José expose ses photos de son voyage en Inde du 1er au 31 juillet. Et Rolf Becker exposera quelques jours à partir du 12 juillet ses peintures qui représentent des danseurs, des chanteurs, la plupart en acrylique.
Итак, наша страничка событийная. Мы вам рассказываем, что у нас будет в июле и в августе. Ну, в первую очередь, две большие выставки. Жозе нам представит свои фотографии, которые он сделал после поездки из Индии. И потом будет у нас еще одна интересная выставка. Это будут картины, сделанные маслом акрилик. И картины достаточно интересные. Можно себе представить окружающую жизнь художников, композиторов, музыкантов, танцоров. И все это в одном стремительном таком броске. Но это надо видеть, рассказывать об этом очень сложно.
Demain, mardi 3 juillet, un concert Tiche Musique Klezmer et chansons à 19h30.
Итак, начинаем. 3 числа у нас будет концерт музыки, который называется Тиш. Вот они будут петь и играть нам с 19:30 и до самого вечера.
Mercredi 4 juillet, atelier. Premier mercredi du mois, donc réservé à des films et documentaires, et ce sera le film Né un 4 juillet, suivi d'une discussion sur les impressions du film, suivi par Rock and Drôlerie par les locomotives La Paix.
Итак, 4 число – это среда. И как обычно по средам, ассоциация, которая называется «Локомотив мира», они этим занимаются, это группа пацифистов. У них будет представлен документальный фильм с обсуждением, а потом попозже вечером они будут танцевать рок-н-роль.
Jeudi 5 juillet, bal folk par Chloé à 21h.
Четверг, 5 числа. Ну, вы уже все знаете, что по четвергам у нас либо караоке, либо бал фольк. Вот как раз 5 числа у нас будет фольклорный бал с Клоей, который будет нам играть. И все это начнется в 21:00.
Vendredi 6 juillet, un concert de musique populaire italienne à 21h par Yuri Ban.
Да, совершенно верно. Юрий, наш замечательный Юрий, он возвращается к нам, чтобы представить опять итальянскую музыку популярную. И все это будет 7 числа в 21:00.
Samedi 7 juillet à midi, le piano bar avec Philippe qui invite tout chanteur et chanteuse qui voudrait participer. Et à 21h, une soirée conte par Connie, Los Aveux, conte des Indiens, tout public et durée à peu près une heure.
Et donc, sobota. По субботам у нас 12 часов всегда играет Филипп. Это вечер, нет, не вечер, это день. Называется «Пиано-бар». Ну, как сказать по-другому? Ну, это вот кафе-пианино. Просто Филипп играет музыку, и он предлагает всем. Ребята, если хотите, приходите. Будем вместе играть и будем вместе петь. А вечером этого же дня Кони, которую мы все очень хорошо знаем в городе, она у нас профессиональная актриса театральная, она будет рассказывать свои... Это будет рассказ индейцев Канады.
Les contes continuent le lendemain, dimanche 8 juillet, pour un après-midi conte avec un deuxième conte indien, donc Los, toujours Los Aveux, par Connie, une comédienne de théâtre voilà. Très connue dans le Diwa.
Oui, c'est vrai.
Venez
c'est vrai.
À 15h dimanche 8 juillet.
Да. Итак, в воскресенье Connie представит опять свой спектакль. Тот, кто не успел увидеть накануне, он может увидеть все это. Воскресенье в 3 часа.
La semaine suivante, une semaine brésilienne avec mardi 10 juillet, concert au Nego Branco, musique populaire brésilienne à 21h.
Это немножко необычно. У нас во вторник следующий начинается бразильская неделя. Ну, так сложилось. У нас любят здесь бразильскую музыку. И вот первый концерт будет во вторник, 11 числа. Вечером, естественно, как обычно. И это будет музыка, которую нам представит группа. Как она называется группа, Диана?
Онего Бранко.
Онего Бранко. Не знаю, как это перевести на русский язык. Ну вот, пожалуйста, приходите в 21.00.
Mercredi 11 juillet à 10h du matin, un concert Alter Musica, un nocturne cosmopolite, un ensemble de saxophones et percussions à 10h du matin.
Ну, а это необычная группа, которая приедет к нам в 11 утра. Причем это будет среда, день, когда будет ярмарка. Здесь на улице, рядом с кафе, будет выступать группа из 8 саксофонистов. Можете себе представить. Это молодые ребята, которые все вместе закончили музыкальную школу. И они теперь учатся все вместе в консерватории. Они организовали эту потрясающую группу. Вот иногда они у нас выступают. Вот это как раз тот самый редкий случай, который нельзя пропустить, чтобы послушать эту великолепную группу из 8 саксофонистов.
À 18h, atelier, puis rock'n'drollerie par les locomotives La Paix. C'est le deuxième mercredi du mois qui est réservé à la communication éthique et pacifique. La thématique de ce mercredi est prendre conscience de son essentiel, de ce qui nous fait nous lever de bonne humeur le matin et découvrir aussi l'essentiel de notre voisin.
Ну, все правильно, поскольку это среда, понятно, что опять локомотив мира, локомотив Дупе, который организует с самого утра до вечера свое ателье, обсуждение вокруг просмотра документального фильма, и вечером, ну, как обычно, они будут отрываться в рок-н-ролле.
La semaine brésilienne continue jeudi 12 juillet avec un apéro-concert par Cyril Marcy qui va nous chanter des chansons du Brésil à 19h.
Итак, наша бразильская неделя продолжается уже в четверг, и в 18 часов будет у нас концерт аперитив. Ну, скажем так, это концерт до еды, если можно так сказать. И он будет представлен опять же бразильской музыкой, только уже другой группой. И будут они у нас танцевать, и плясать, и петь, и играть вообще-то до 23 вечера.
Et samedi 14 juillet, donc notre piano bar habituel à midi avec Philippe est toujours bienvenue aux chanteurs et aux chanteuses qui souhaiteraient l'accompagner.
Итак, 14-го. Это понятно, что это день ярмарки. Это понятно, что суббота, и понятно, что будет опять Филипп. И он опять будет играть на нашем замечательном пианине и предлагает всем, кто хочет. Ребята, приходите. Будем играть вместе, будем петь вместе до самого вечера.
Venez au café théâtre Andarta pour notre beau programme de juillet. À bientôt.
Итак, приходите к нам. Наш кафе театр Андарта для вас открыт с 1 по 15 число. Очень большая насыщенная программа. Понятное дело, что это лето только начинается, и вас ждут еще сюрпризы. Приходите к нам.